On vous a dit, des féministes, que c'était de vrais duègnes. Mais qu'est-ce qu'on vous a dit, des cantatrices ? La voix qui s'élève en chantant. D'où vient-elle ? Du ventre. Il me l'a dit, mon professeur de chant. Vous cherchez l'air ? Au fond de vos entrailles, s'il vous plaît. Prenez l'inspiration profonde au-dessus du diaphragme. Gonflez le ventre et chantez. Chantez long, chantez bon.
Die Götter der Nacht.
Mutter, meine Mutter.
Mutter? Das muss man von Weitem belauschen.
Siehst du hier diesen Stahl? Er ist für Sarastro geschliffen. Du wirst ihn töten, liebste Mutter. Kein Wort.
Ce soir, les mémoires de la cantatrice Chaude. Les mémoires de Bianca Castafiore. J'ai eu 20 ans dans les Aurès. À l'époque, je ne chantais guère, sinon pour les chevriers du Djebel, qui étaient tous au FLN. La nuit, dans le Douar, qui veut dire village en Algérie, nous mangions du mouton sous la lune en croissant, les doigts dégoulinant. Nos mitraillettes étaient posées par terre, auprès des écuelles. Et nous chantions alors de nos voix rauques, ces chants rebelles de Kabylie, dont les accents exaspéraient tous les soldats français postés là-bas pour nous traquer.
<t'en>
L'amplitude est grande dans ces régions maghrébines et la nuit venue, je frissonnais sous ma djellaba que je portais à même la peau. Les chevriers me réchauffaient. Ils me tendaient la pipe à kif et leurs mains s'insinuaient sous le burnous. Renversé sous le ciel étoilé, je mangeais des nuées tandis qu'Abdel me caressait. Son corps était poli, il sentait le kéfir et ne sentait pas l'homme. Comme il n'avait pas froid, je le déshabillais, tandis que je mordais languide le bout de ses seins plats. Au loin, des chacals ricanaient et des hyènes qui suscitaient la mort et le soldat français. Je haïssais la mort et je la hais toujours, mais je lui savais gré de sacrifier au sexe un peu de sa puissance. Pendant qu'elle m'oppressait et parce qu'elle rôdait, l'amour des chevriers avait un goût d'irréversible. Abdel, enfoui sous ma djellaba, au chaud et protégé du monde, léchait ma vulve avec patience, et moi, je scandais ma joie mortelle, comme en chantant. En haletant. Ah, Le temps a passé depuis les chevriers. À Paris-France, au Conservatoire d'art lyrique, je me retrouvais. L'hiver 63 fut un hiver très froid. Je m'en souviens encore, j'allumais dans des gamelles des flambées dérisoires qui empestaient l'alcool à brûler. C'est un chauffage rudimentaire, car la chaleur qu'il donne est illusoire. Intense pendant quelques minutes, elle disparaît très vite et vous laisse glacée. Chaque matin, au cours, je dorlotais ma tessiture. Rentrée chez moi dans mon 8e étage sans ascenseur, je la compromettais de laryngite en laryngite. Curieusement, ce fut en ce temps-là, un temps de lac gelé, que je m'entichais des marins. Peut-être était-ce à cause de ce film, Lola de Jacques Demy, que j'avais vu au cinéma, mais chaque jour, je courais sur les quais pour trouver mon marin de la nuit.
Où vas-tu, Mathilda? Où vas-tu ce soir? Le long du canal, de ce pas animal. Je cherche un beau mal, là-bas, qui m'aimera ce soir, sans jamais me revoir. Vogue, vogue, vieux navire, vogue, vogue, grand bateau, que ton étrave déchire le néant des flots. Nous ne connaîtrons les îles que les filles à matelots. Nous ne verrons pas les Antilles, nous ne verrons pas Macao. Des grands lascars aux cheveux frisés et noirs, j'en ai plein ma péniche, viens donc, sois chiche. Des gars tatoués comme des panthères, dont les corps musclés ont des bras qui serrent. Viendras-tu ce soir? Vogue, vogue, vieux navire, vogue, vogue, grand bateau, que ton étrave déchire le néant des flots. Nous ne connaîtrons des îles que les filles à matelots. Nous ne verrons pas les Antilles, nous ne verrons pas Macao. Au son des tambours et des valses musettes sur mon vieux rafio, nous fîmes la fête et la fière Mathilda, ses longs cheveux épars, donne à chacun sa part de son petit corps barbare. Vogue, vogue, vieux navire, vogue, vogue, grand bateau, que ton étrave déchire le néant des flots. Nous ne connaîtrons les îles que les filles à matelots. Nous ne verrons pas les Antilles, nous ne verrons pas Macao. Où vas-tu, Mathilda? Où vas-tu ce soir? Le long du canal, de ce pas animal. Je cherche un beau mâle, là-bas, qui m'aimera ce soir, sans jamais me revoir.
Voici comment je procédais. Les marins étaient assis et buvaient à la taverne du port. Moi, j'y pénétrais, anxieuse, emmitouflée jusqu'aux oreilles d'une immense pelisse en verre. Seulement, sous le petit gris, naturellement, j'étais toute nue. J'avisais le plus proche marin, qui avait l'œil généralement bleu, et en souriant confuse d'une naïveté touchante et savamment rodée, je lui demandais la permission de toucher son pompon, car comme on sait, cela porte bonheur. Il acquiesçait souvent, et je me débrouillais en flattant le pompon pour faire béer ma houppelande de sorte qu'il voyait tout, mes seins, mon bourrillon et le restant. Les marins ont le cœur bien assis, aussi ne tournaient-ils jamais de l'œil et me suivaient docilement, car on ne saurait être plus clair. Quand je l'avais mis dans mon lit glacé, je lui imposais des ébats athlétiques pour tromper le froid. Nous sautions et nous roulions, nous nous flanquions de braves claques un peu partout sur l'épiderme. À la fin, nous étions rouges et morts de rire. Une fois, j'eus affaire à un marin taciturne, un jeune gars pourtant bien roulé et sympathique. À la première gifle que je lui administrais, il se mit à pleurer. Ce fut très amusant, car il pleurait tellement que j'en remplis un verre, que nous bûmes à sa santé.
Oh, qu'y a-t-il en bord de l'eau? Une petite fille qui pleure au bord de l'eau. Elle ne m'entend pas, je ne vois pas son visage. Pourquoi pleures-tu? N'ayez pas peur, vous n'avez rien à craindre. Je ne vous ferai pas. Oh, vous êtes belle.
Ne me touchez pas, ou je me jette à l'eau.
Je ne vous touche pas. Voyez, je resterai ici contre l'âme. N'ayez pas peur. Vous enfuir.
Je suis perdu. Perdu. Oh, oh, perdu ici. Je ne suis pas d'ici. Je ne suis pas de là.
Où êtes-vous? Où êtes-vous né? Une couronne, je vais essayer de la prendre.
Non, non, je n'en veux plus, je n'en veux plus. Mourir tout de suite.
Je pourrais la retirer facilement, l'eau n'est pas très profonde.
Je n'en veux plus.
Sans peine cependant, elle semble très belle. Y a-t-il longtemps que vous avez fui?
Qui êtes-vous?
Je suis le prince Colomb.
Fermez jamais les yeux. mer si étonnée.
Vous êtes un géant.
Je suis un homme comme les autres. Je suis un homme comme les autres. Je suis un homme comme les autres.
Avec le succès, me vint la série noire. Claudius, Claudion, Claudile et Claudilon. Je frisais la trentaine, on entendait ma voix dans les jukebox, à la Scala, à l'Opéra même, de Genève. Et j'avais le vague à l'âme. Diva j'étais, Bianca et Castafiore. Je n'avais que faire du capitaine Haddock ni de Tintin, qui, tous deux, allaient très bien ensemble, mais j'avais le vague à l'âme. Jusqu'alors, je prenais légèrement, je vaquais à mes amours, dans l'incurie des jouvencelles. Les hommes aussi m'étaient légers, pour les avoir aimés à satiété et sans solennité. Or, avec le succès, et puis l'insertion dans la société, j'étais mari, floué, et je craignais la solitude. C'est alors que surgirent Claudius, Claudion, Claudile et Claudilon. Claudius. Claudius était petit, facteur, amateur forcené de ma voix de contralto. Il m'aborda le soir dans ma loge, à minuit, pour quémander un autographe que je lui cédais volontiers, car il était joli et moi un peu lasse. Comme il portait un uniforme, je crus qu'il était aviateur, à quoi il répondit simplement « Non, facteur ». J'aimais cette gentille absence de fatuité. Le soir même, en quittant ma loge, il me déroba ma robe de scène. Les journaux en firent des manchettes. Moi, cela m'arrangeait. Je trouvais qu'il avait du panache et j'espérais qu'il ressurgirait. Il n'y manqua pas, me rapportant ma robe. Après l'avoir tensée pour la forme, nous eûmes tôt fait de bondir dans mon pieu, qui sentait à l'époque, c'était heureux, la citronnelle. Quant à Claudius, c'était un gai facteur, bon compagnon, aimable et chou, en un mot commençant. J'en tombais amoureuse. Voici pourquoi. Quand il baisait, il gémissait plus fort que moi. Quand ce n'était des cris, des ululements, bref, des bruits très émouvants. Plutôt féminin, imberbe au demeurant, il pleurait en baisant. J'adorais ça. J'en étais folle. Je lui sautais dessus à pieds joints le plus souvent. Avec un peu de chance, je parvenais parfois, en écartant d'un bond mes deux pieds de part et d'autre de son bassin, à m'écraser sur son zizi, zizi contre zizi. C'est le moment qu'il choisissait pour pisser. Bref, c'était fabuleux. Moi, je ne pissais pas car j'avais le cœur lourd. En effet, Claudius, malgré le goût que j'en avais, témoignait de très peu d'intérêt pour mon plaisir à moi. Savait-il seulement où se trouvait mon clitoris? J'en doute encore. Il tâtonnait sans enthousiasme et finissait toujours au bout de quelques interminables secondes par me pénétrer d'importance en haranant comme un cheval. Il faisait tant de bruit que mon silence passait inaperçu. Après avoir éjaculé, il sanglotait dans mon cou des mots touchants tels que « Ah, comme ça fait plaisir de faire plaisir !» J'ai en horreur les parcours balisés et hautement verbalisés du genre « C'est là, non, pas encore, oui, oui, c'est là, encore, encore !» Si bien que je n'ai jamais joui, je crois, avec le dénommé Claudius, un amour de Claudius. Mais je l'aimais, comme je l'aimais. À défaut de plaisir, j'en vins même à tenter de lui soutirer un enfant. « Veux-tu, Claudius, que nous fassions un môme ?» Et Claudius répondit. « Un gosse, ma chère, avec une contralto, tu veux rire? Ne t'ai-je pas dit que j'aime les sopranos ?»
Yeah.
Je pleurais encore Claudius, que je ne pouvais voir sans tressaillir, quand Clodion apparut. C'était son frère, ou quasiment, un adorable mec qui me le rappelait tant que je me jetais dessus sans la vergogne élémentaire qu'il vaut mieux observer. Je vous assure, dans ces cas-là, c'est plus poli et c'est tellement plus sûr. Mais Clodion, il était si tendre et si charmant. Il avait les yeux tellement cléments. Il ressemblait à mon Clodius. Je le voulais, je l'eus, je me ruais dessus. Dans un petit bar louche où je noyais ma peine dans le calvados à 3 sous, Clodion me dit soudain « Avez-vous du feu, ma doudou ?» Du feu, certes du feu, car pour tout dire, j'étais incandescente. « Comment vous nommez-vous »« Clodion ?» C'est parfait. J'exhibais un nichon, puis deux, puis trois, ou bien une cuisse, je ne sais plus. Il m'allait droit au cœur avec son air Clodius en diable. À sa bouche, je me collais. Il mâchait du chewing-gum. Je le lui entortillais autour du nez avec ma langue. Je crois que j'en fourrais même un peu au creux de ses narines. Il soufflait comme un faon, un jeune faon, presque un bœuf. Il était excité, au milieu du bistrot. Qu'avions-nous à faire de ces regards tendus et tellement accessoires? Au milieu du bistrot, je lui déchirais la manche et lui mangeais les poils autour du cubitus, un à un, à petits coups de dents, à petits coups de langue. Puis, arrachant mes vêtements, nu comme Adam, je le défiais. « Viens voir, Clodion, si tu sais faire l'amour en même temps que la roue. » Nous entreprîmes alors, entremêlés comme saucisses en chapelet, de nous happer en tournant sur les mains. Nos corps suants glissaient dans le mouvement et, tandis que les clients du bar frappaient dans leurs mains en cadence, nous atterrîmes tous deux dans la soupière à ponche que nous lapâmes à même le sol comme des animaux en rute. Cela fit un beau charivari. Clodion, cependant, parut lassé de ses ébats. Je lui proposai de me suivre. Nous eûmes une relation durable de 3 mois et 2 jours. À la minuit de ce 2e jour, il me quitta sans autre forme de procès, déclarant mordicus qu'il préférait les vierges, car elles au moins sont perfectibles.
Stirbt so
Je fus presque à me suicider, je ne mens pas. C'était ainsi. Le sort, il me semblait, me boudait en m'offrant des hommes sans qualité, des hommes ni trop ni pas assez, mais qui m'étaient, comment dirais-je, décalés. J'errais, déliquescente et funeste. J'attendais Clodil. Entre deux êtres, ni lui ni elle, un air à tire-d'aile, passablement venu d'ailleurs, Clodil, le terrestre le plus extra que j'ai connu. Il arpentait le trottoir du cimetière. Je fréquentais le séjour des morts à cette époque plutôt baroque où je ne savais que faire de ma vie. Je marchais, très peu vêtu, dans les cimetières, qu'étant le diable ou le bon Dieu, peu m'importait, car j'avais soif de scrogneugneux. Ce fut Clodile qui déposait des fleurs sur la tombe de Ferdinand Bakounine, cousin germain de l'anarchiste. Clodile qui m'asséna un grand coup de chapeau dans les termes suivants. « Madame, vous allez prendre froid. On aperçoit votre con dans l'entrebâillement de votre beau vison. » Je ne fis pas l'ombre d'une mine pour refermer mon vison. Il apprécia et me tendit les fleurs, celles-là même qu'il destinait primitivement à Ferdinand Bakounine, cousin germain de l'anarchiste. Nous nous aimâmes parmi les tombes. Mieux, il y avait pour nous servir quelques squelettes notoires, celui de Jules Vallès, celui de Ramirez y Boa de la Sombra, celle de la Grande Colette, et même celui de Guillaume Tell, l'amateur de Strudel. Tous ces os nous servaient à branler. Nous ne pûmes dénicher le fémur du divin marquis, ça aurait été exquis. Malheureusement pour moi, Clodile, ce fou chantant de nécrophile, me préféra le cadavre de Madame Edouarda et me laissa tomber en plein champ de bataille après 2 ans, mais oui, des mois incomparables.